Vous écoutez
RMC.
7h, excellent réveil sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Il projetait un attentat pendant les JO. À seulement 16 ans, un adolescent a été interpellé hier en Haute-Savoie, repéré après avoir écrit sur une messagerie cryptée. On va vous expliquer. Un jeudi noir qui démarre dans les transports, des centaines de vols annulés malgré pourtant la levée du préavis de grève des contrôleurs aériens qui ont trouvé un accord, notamment sur les salaires.
Et ce chantage aux JO, semble-t-il, ça marche. SNCF, RATP et désormais donc les contrôleurs aériens. Le gouvernement achète-t-il la paix sociale? Je pose la question à 7h40 à mon invité, le sénateur LR, Philippe Tabarot.
Et la lutte contre le surtourisme avec une première ce matin. Il faut payer un ticket d'entrée de 5€, comme un péage en fait, pour visiter Venise en Italie.
C'est un jeune de seulement 16 ans qui voulait commettre un attentat pendant les Jeux Olympiques.
Il voulait mourir en martyr et s'en prendre donc à l'événement de l'année. Et alors Marion Dubreuil du service police-justice à RMC, c'est parce qu'il a publié un message qu'il a été interpellé hier.
Ce sont des échanges sur la messagerie cryptée Telegram qui ont alerté les autorités. L'adolescent cherchait à se procurer de quoi fabriquer une ceinture explosive pour, je cite, « mourir en martyr ». Il a été interpellé chez ses parents en Haute-Savoie dès hier. En perquisition, les policiers ont retrouvé de nombreux documents, dont une lettre manuscrite d'allégeance à l'État islamique. Mais les enquêteurs n'ont retrouvé aucune arme ni explosif au domicile du suspect. En garde à vue, le mineur a reconnu avoir eu pour projet de commettre un attentat suicide à la Défense pendant les Jeux Olympiques avec un fusil ou une ceinture explosive. L'enquête se poursuit désormais sous la direction du parquet national antiterroriste pour déterminer la réalité du projet d'acte terroriste et le cas échéant son état d'aboutissement.
À Antibes, c'est un adolescent de 16 ans là aussi qui a été interpellé parce que soupçonné de préparer une tuerie de masse dans un lycée à Antibes. Un jeune qui est décrit comme très perturbé. Toujours la même version dans l'affaire Kenji Girac, le chanteur blessé par balle en début de semaine, a maintenu sa version, celle du tir accidentel pendant son audition qui a duré 3 heures hier à l'hôpital de Bordeaux. Il est 7h02 sur RMC. Et le bras de fer donc dans les transports avant les Jeux Olympiques. Pas beaucoup d'avions ce matin dans les aéroports. 2000 vols sont annulés partout en Europe. Les trois quarts à Orly, les deux tiers à Marseille, la moitié à Roissy et dans les autres aéroports. Le principal syndicat des contrôleurs aériens a pourtant levé son préavis de grève après avoir trouvé un accord avec l'aviation civile, Marion Gauthier.
Il reste discret, mais le syndicat national des contrôleurs du trafic aérien aurait obtenu gain de cause sur la majorité de ses revendications. Question de statut, d'organisation des tours de service, mais aussi question d'argent. Une partie de la paye des aiguilleurs du ciel est faite de primes. Il s'agirait de les compter un peu plus dans le calcul de la retraite. Se chuchote aussi la possibilité d'une augmentation. Ils veulent nous faire travailler plus, le salaire doit suivre, résume un contrôleur anonymement. Mais la direction ne nous a donné aucun chiffre. Tout est très flou, s'agace d'autres syndicats. Un responsable s'insurge d'être ainsi tenu à l'écart des négociations. Tout juste une heure de réunion hier midi, rapporte-t-il. L'UNSA, ICNA et l'USAC CGT ont donc maintenu leur préavis de grève pour aujourd'hui. Pour le mois de juin également, précise l'UNSA. Des rencontres sont prévues entre les partenaires sociaux et la direction lundi et mardi prochains.
Promesse tenue, les États-Unis enverront des armes à l'Ukraine là, dans les prochaines heures. Voilà ce qu'a dit cette nuit Joe Biden, le président américain qui vient de signer le chèque en quelque sorte de 61 milliards de dollars pour les Ukrainiens. Au Proche-Orient ce matin, Israël dit avoir lancé une offensive dans le sud du Liban et dit aussi avancer à Gaza. Gaza où le Hamas a diffusé dans la soirée une vidéo montrant un otage israélo-américain de 23 ans qui avait été enlevé le 7 octobre dernier lors du festival de musique Romain Hougue.
Oui, c'est une vidéo de 2 minutes 30 dans laquelle le jeune otage s'exprime assis, seul, face caméra, sur fond blanc. Le polo rouge qu'il porte laisse apparaître une grave blessure sur son bras gauche, amputé juste en dessous du coude. « Honte à vous », lance-t-il à Benjamin Netanyahou, « vous me laissez sans nourriture et sans le traitement médical dont j'ai besoin », des mots bouleversants pour ses parents qui ont enregistré eux-mêmes dans la soirée une vidéo qu'ils ont tenue à diffuser sur les réseaux sociaux, avec d'abord ce message adressé à leur fils. «
We heard your voice today. » «
On a entendu ta voix pour la première fois en 201 jours. Et si tu nous entends, on te dit, on t'aime, reste fort, survie.
Puis ils exhortent les dirigeants à enfin trouver un accord de trêve pour libérer les otages.
Soyez courageux, saisissez ce moment et concluez un accord pour nous réunir tous et mettre fin aux souffrances dans cette région.
Selon Israël, 129 otages sont toujours retenus dans la bande de Gaza, dont 34 sont considérés comme morts par l'armée israélienne.
La campagne des Européennes du mois de juin, discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne, en fin de matinée, comme il y a 7 ans, tiens, juste après son élection, c'est une entrée en campagne, dénonce le Rassemblement National, alors que la candidate macroniste est à la peine dans les derniers sondages. Cette alerte de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, ce matin, elle nous dit que la consommation d'alcool est alarmante chez les jeunes, chez les 11-15 ans. Ils sont quasiment 6 sur 10 à déjà avoir bu de l'alcool, 1 sur 10, 9% précisément, a déjà été ivre, donc à l'adolescence. Une première ce matin contre le surtourisme. C'est en Italie, ça se passe à Venise. On connaissait déjà les quotas dans les Calanques, à Marseille, à Porquerolles, bientôt sur l'île de Ré. Et bien à partir de ce matin, les visiteurs qui ne dorment pas à Venise devront payer un ticket de 5 euros pour pouvoir visiter à la journée la célèbre ville italienne. Ce sera comme ça les jours de grande affluence. Alors c'est pas encore en place, ça va commencer à 8h30, pas encore en place et ça râle déjà, nous dit Caroline Philippe, l'envoyée spéciale de RMC sur place.
Sur les ponts étroits, les places bondées, Laurent et sa famille se frayent un chemin.
J'entends plus souvent parler français qu'italien presque. Ça brise un peu le charme, naturellement.
Mais ce n'est pas un ticket à 5 euros qui le dissuadera de venir.
Ça ne nous empêchera pas de visiter Venise et même d'y revenir plusieurs fois s'il le faut. Après, il faut aller sur Internet, il faut s'enregistrer, il faut essayer de voir si effectivement on sera ou pas compté dans les touristes de passage. Donc c'est un peu plus contraignant pour nous.
C'est plus que ça pour Sophie, l'aide-soignante alsacienne, touriste d'un jour sagace.
Pour visiter un monument qu'on paye, ok, mais pas pour se promener. C'est déjà assez cher comme ça, partout, parce que sinon, alors on arrête le tourisme. Ou que pour les riches, encore pour les riches. Et pas pour les gens, monsieur et madame, tout le monde.
Et c'est ce qui inquiète Xoni dans son restaurant de spécialité italienne. Et si ce ticket détournait trop de touristes?
Ce n'est pas très agréable de devoir payer ce ticket. Et ce sera plus difficile pour les habitués de revenir année après année. La fréquentation va chuter.
Cette année, ce ticket sera obligatoire seulement 29 jours, des dates de grande affluence à Venise.
Paris, le Paris Saint-Germain n'a pas fait de tourisme hier soir. Victoire 4-1 à Lorient, c'était un match en retard de championnat de Ligue 1. Mais les Parisiens ne sont pas encore champions. Ça dépendait du résultat de Monaco. Et Monaco a gagné 1-0 hier soir contre Lille. C'est la bataille pour le podium. Les Monégasques d'ailleurs s'installent à la deuxième place, Maxime Tillette.
Oui, grâce au but de Youssouf Fofana, Monaco prend ses distances avec ses concurrents. 5 points sur Brest, 3e, 6 sur Lille, 4e. Le milieu marnais Sakliouche savoure.
On est très, très heureux de cette victoire. C'est vrai que c'est un pas aujourd'hui dans la course à l'Europe et à la course à la Ligue des Champions. Donc on est très, très heureux. On profite aussi. Mais on sait que c'est pas terminé, le boulot n'est pas fini. Donc il nous reste encore des matchs. Il va falloir faire ce qu'il faut.
Avec 8 matchs sans défaite, l'entraîneur a 18h. Salue lui la bonne dynamique.
L'objectif a toujours été de se qualifier pour la Ligue des Champions. C'est une étape de plus. Nous sommes très contents. Nous avons de la confiance. Nous continuons cette série. C'est très positif.
Cela fait 6 ans que la qualification en Ligue des Champions échappe au Monégasque. L'attaquant Crépin Diata garde la tête froide.
Il faut qu'on continue parce que rien n'est encore fait. À nous de rester constants. Il ne faut pas qu'on se dise que c'est déjà fait. Ce n'est pas encore fait. Il nous reste encore des matchs à accomplir et surtout de prendre des points pour pouvoir penser d'abord à la Ligue des Champions.
Le premier sera dès dimanche à Lyon.
L'autre résultat de la soirée, c'est le match nul de partout entre Marseille et Nice, choc de la Méditerranée. Les Marseillais qui étaient réduits à 10 toute une mi-temps et qui promettent de ne rien lâcher jusqu'à la fin de la saison, même si les Marseillais sont 8e au classement et qui n'ont plus grand-chose à jouer.
Et c'était le journal de Quentin Vinet. On vous retrouve pour le journal de 8h. À tout à l'heure. Il est 7h08.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Délibérément aucune équipe féminine, un croissant et une étoile sur le logo. Le club de foot de Sète est accusé de séparatisme et de communautarisme. La mairie coupe les subventions. La réponse de l'avocat du club dans un instant.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
7h10, très bon réveil à tous.
Le témoin RMC.
Bonjour Stéphane Gazguez.
Bonjour.
Vous êtes avocat et vous êtes l'avocat du club de foot amateur de Sète qui a donc été dénoncé hier par le préfet de l'Hérault qui dénonce un choix délibéré de ne pas développer la pratique féminine du football, une absence de neutralité liée à l'utilisation d'un signe emblématique de la religion musulmane comme logo du club et qui a donc décidé de retirer l'agrément de l'association sportive. La mairie rajoute également qu'elle retire toutes les subventions. Vous contestez cette décision ?
Oui, on conteste cette décision. Je voudrais quand même rappeler sur la chronologie qui est assez particulière dans ce dossier. On a un arrêté qui a été pris le 17 février 2024 par le préfet de l'Hérault. Et c'est seulement hier après-midi que la préfecture communique sur cet arrêté. Pourquoi hier après-midi ? Tout simplement parce que le tribunal administratif a convoqué la préfecture hier à 10h30 devant le tribunal administratif de Montpellier, parce que nous avons contesté cette décision devant la juridiction administrative.
Mais au-delà de l'agenda, moi je veux dire, ça ne m'intéresse pas tellement. Alors, l'agenda. Enfin, je veux dire, ce qui m'intéresse, c'est sur le fond. Pourquoi vous contestez cette décision ?
C'est important parce que c'est le préfet qui communique sur cet arrêté. Et il ne communique sur cet arrêté que lorsqu'il est convoqué devant un tribunal administratif. Pourquoi ? Parce que moi je considère, et les éléments factuels le démontreront, que ce qui est invoqué par la préfecture ne tient pas. On nous parle d'un logo. Au mois de juin 2023, ce logo, communautaire effectivement au départ, puisque il s'agissait d'un croissant et d'une étoile à cinq branches. Pourquoi ? Parce que, en fait, historiquement, ce club est un club populaire fréquenté par des Français d'origine maghrébine. Ils ont voulu se rassembler autour de ce logo-là. Au mois de juin 2023, ils décident de changer de logo. Donc, au moment où l'arrêté est pris, le logo en question communautaire n'existe plus.
Mais si ce logo est changé, c'est donc bien que vous reconnaissez qu'au départ, c'était un logo à consonance religieuse et non pas sportive.
Tout à fait. Il n'y a pas de difficulté là-dessus, mais ce n'est pas le seul club qui agit ainsi. Il y a des clubs où on a des Français d'origine portugaise qui affichent une croix catholique. On a des clubs, notamment à Sarcelles ou à Lyon, de confession juive qui affichent une étoile de David. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. J'ai même vu sur des pages Facebook des gamins de 8 ou 10 ans porter la kippa et s'entraîner sur des terrains de foot. Ça pose pas de difficulté, ça ne me pose pas de difficulté parce que c'est ça la France, c'est ça la diversité et il faut qu'on puisse
accepter. Mais pour autant, vous dites, on a changé le logo. Donc
Oui, on a changé le logo parce que je vous explique, le club, il est dans une démarche d'inclusion, il est dans une démarche aujourd'hui, c'est quand même assez incroyable. On nous parle d'un club qui compte 54 adhérents.
60, dit le préfet. Enfin bon, voilà.
54 adhérents, je vous précise, hein, puisque j'ai la liste exacte des adhérents de ce club. 54 adhérents et c'est devenu le sujet national. Ce club-là, c'est un petit club de quartier à 7. Ce n'est pas le sujet qui préoccupe majoritairement les Français. On en fait un sujet national, comme si c'était une.
C'est pas tous les jours qu'un préfet prend un arrêté pour fermer toute subvention.
Et c'est une décision qui est grave. Moi, je le dénonce et j'ai toutes les raisons de croire qu'effectivement, la justice administrative ira dans notre sens cet arrêté est disproportionné.
Il y avait la question du logo, il y avait la question aussi de la place des femmes et d'une équipe féminine. Le préfet dit que délibérément, le préfet et le maire disent que délibérément, vous n'avez, ce club n'a pas développé d'équipe féminine.
Alors, c'est complètement faux. Le club n'a pas de demande par rapport à ce point-là. Il n'est pas opposé à développer une équipe féminine. Et je vous le dis parce que les dirigeants sont remontés par la communication du préfet. Ils déposent plainte. Je vais préparer une plainte par mon cabinet pour dénonciation calomnieuse et pour diffamation contre le préfet parce que c'est invraisemblable. Jamais les dirigeants du club ont refusé la pratique du sport féminin dans le club. S'il y a de la demande, s'ils ont les capacités, parce qu'on parle quand même d'un club où on n'a que des bénévoles. Il n'y a pas de ressources financières qui permettent.
C'est un petit club.
C'est un petit club. On parle de 54 adhérents. Si on a des possibilités financières, si la mairie est prête à nous financer, si la préfecture est prête.
Là, ça a l'air d'être plutôt l'inverse.
Oui, mais c'est logique. C'est bien logique parce que, en fait, dans ce pays, dès qu'il est question d'islam, dès qu'il est question de musulmans,
c'est l'islamophobie.
Mais bien sûr, on est face à une décision uniquement politique. Je voudrais quand même rappeler que le préfet de l'Hérault, c'est l'ancien directeur de cabinet de l'Élysée. Évidemment qu'on est dans une lecture politique. Moi, je suis avocat au barreau de Nice. Ces derniers mois, on a eu une série de mesures prises par la préfecture qui ont toutes été suspendues par la juridiction administrative. Des interdictions de manifestation suspendues par le tribunal. C'est moi qui avais saisi le tribunal administratif. Un collège privé musulman qui a été fermé devant le tribunal administratif, ça n'a pas tenu. À Vicennes, ça a été suspendu devant la juridiction administrative. Une librairie qui a été attaquée pour fondamentalisme. Également, l'arrêté n'a pas tenu 3 jours devant le tribunal administratif, ça a été suspendu. Et Sciences Po, où on a voulu interdire la venue de Rima Hassan à Menton, également devant la justice administrative en référé liberté, j'ai obtenu gain de cause et la conférence
a pu avoir lieu. Et là, vous estimez que vous obtiendrez gain de cause.
Tout à fait.
Mais vous allez plus loin, puisque non seulement vous faites appel de la décision du préfet, mais si je comprends bien, vous portez plainte contre le préfet.
Évidemment. parce que dans ce dossier, c'est insupportable d'avoir des accusations mensongères. Et moi, je suis scandalisé également de voir que dans les médias, on n'est pas capable d'aller consulter à la page Facebook du FC7 Club et constater que...
Mais moi, je vous interroge, ça m'a impressionné pour que vous puissiez défendre votre position.
Je le dis parce que pendant 24 heures, on a vu un ancien logo du club avec l'étoile et le croissant. Oui, mais, alors qu'il suffit d'aller sur la page Facebook, taper deux mots FC7 Club Olympique pour voir que le logo en question
on
aujourd'hui
voit les deux logos. N'est plus... Alors là, je vais être très précise.
N'est plus celui qui est invoqué par la préfecture.
Nous, on a regardé les deux logos, mais cela dit, vous ne pouvez pas nier que ce logo était précisément ce que vous reprochez le préfet. C'est donc normal et c'est notre travail de le montrer.
C'était le logo en 2023. Aujourd'hui, on est au mois d'avril 2024. Depuis le mois de juin 2023, ce n'est plus le logo du club FC.
Quand vous dites que vous n'avez jamais refusé...
Il y a d'autres clubs qui sont adhérents à la Fédération Française de Football, des clubs juifs, des clubs portugais, aucune difficulté. Mais pour le FC 7 Club, on en fait un débat national.
Maître, lorsque vous dites « nous n'avons jamais délibérément refusé qui que ce soit de féminin », est-ce que vous en avez, est-ce qu'il y a eu, aucune demande pour vous? Vous n'avez jamais femme qui disait « mais est-ce qu'on pourrait faire du foot ?»
D'abord, c'est pas moi, c'est les dirigeants du club. Et on parle d'un petit club, faut remettre les choses à leur place. On parle d'un club de 53 personnes qui évolue en départemental 2, un petit club de quartier avec des gens, des ouvriers, des techniciens. Voilà, on parle pas de l'Olympique de Marseille, on parle pas du PSG, on parle d'un petit club local. À partir du moment où on a des femmes qui se présentent, et je vous le dis, le président, il est pas du tout opposé à ce qu'il y ait des femmes qui viennent, qui se présentent. À partir du moment où on a un effectif suffisant, des entraîneurs, des moyens financiers, parce qu'il faut pouvoir payer tous ces gens-là. Là, on a une volonté du préfet, la mairie, de faire retirer les subventions, tout simplement parce que ce club, aujourd'hui, refuse l'accusation qui est faite de séparatisme. Parce qu'il faut le dire, la lutte contre le séparatisme, elle se fera pas contre les musulmans, elle doit se faire avec les musulmans. Et moi, j'ai l'impression que dans ce dossier, uniquement, on est dans une phase de communication, uniquement de la part du préfet, parce qu'il est convoqué devant le tribunal
administratif. Et c'est précisément la raison pour laquelle je voulais aussi pouvoir entendre votre version ce matin, Maître Stéphane Guesguez. Merci d'être venu le défendre dans ce studio. Je précise donc que vous portez plainte, vous vous apprêtez à porter plainte contre le préfet et que le rendez-vous est pris donc au tribunal administratif pour examiner votre appel de cette décision. Ce sera donc le 16 mai à suivre. Donc merci, il est 7h18 sur RMC.
Merci madame.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
La réforme des retraites, c'est pour tout le monde, sauf pour certains cheminots. Un accord signé à la SNCF contourne la réforme. Un accord signé sous la pression des syndicats, des menaces de grève. La menace de grève au JO, visiblement, ça marche. Un accord dénoncé par le sénateur LR Philippe Tabarot. Il sera l'invité du jour. Ce sera donc dans 20 minutes. Avant cela, le 7h20 d'Apolline Matin, avec du sourire, l'actu écho du jour. Et l'enquête d'RMC s'engage avec vous, avec Amélie Rosic.
Apolline Matin.
Les indiscrets RMC.
Mais tout de suite, les coulisses de l'actu avec Cyprien Pézril du service politique. Bonjour Cyprien.
Bonjour Apolline.
Cyprien, vous nous révélez cette info ce matin sur RMC après avoir été déménagé en banlieue. Le siège du Parti Socialiste va faire son retour à Paris.
Oui, je suis tombé sur une petite annonce sur un site d'immobilier. Je vous la lis. Au sein d'une ancienne manufacture, 1400 mètres carrés de surface pour 200 000 euros par an, une vingtaine de bureaux, une grande salle de réunion. Et en réalité, cette offre de location n'est pas une offre comme les autres. C'est celle du Parti Socialiste. Sur les photos, on y voit notamment le bureau du patron Olivier Faure. Il avait déménagé le parti à Ivry-sur-Seine, en banlieue parisienne, en 2018, après le départ du siège historique de Solferino. Sauf que la greffe, elle n'a pas pris, c'est trop loin, et puis impossible de manger un morceau autour. Après les réunions, le seul troquet à côté, je ne l'ai jamais vu ouvert, râle un élu, qui comme d'autres n'y a pas beaucoup mis les pieds. Les socialistes donc bien décidés à revenir dans la capitale. Selon nos informations, la piste privilégiée est de louer à côté de la place de la République, lieu symbolique des mobilisations sociales. La direction ne le confirme pas, mais l'idée c'est de récupérer l'actuel local de campagne de Raphaël Glucksmann, leur candidat aux européennes, plusieurs lignes de métro pour y accéder, des cafés et des restaurants autour. Bref, le cahier des charges serait rempli. Et puis, retourner à Paris, c'est une manière de dire que le PS revient dans le jeu, fanfaronne une élue, alors que son parti est dans le trio de tête dans les sondages des élections européennes.
RMC, Apolline Matin, le 7h20.
Apolline de Malherbe.
Et c'est l'heure 17h20 d'Apolline Matin avec autour de la table Amélie Rosic, Emmanuel Lechypre, Arnaud Demange.
Bonjour
à tous les
Salut.
Trois. Ce matin, Amélie, vous venez en aide à Christophe. Christophe, c'est l'un de nos auditeurs. Il a 47 ans. Il est ancien gendarme.
Oui, et après des années dans la gendarmerie nationale, il quitte l'uniforme, sincèrement à contre-cœur en 2010. La vie en caserne pèse trop sur sa famille à ce moment-là. Il devient alors commercial, un emploi qu'il ne lui plaît pas beaucoup. Et après une période de chômage, il a une idée qu'il partage avec sa conseillère Pôle emploi.
Je me suis dit, pourquoi pas les métiers de la sécurité? Je lui avais demandé s'il n'y avait pas une équivalence quand on sortait de la gendarmerie. Il m'a dit non, il n'y a pas de ça, il faut vous inscrire et partir en formation.
Qu'à cela ne tienne, Christophe vide son CPF, le compte personnel de formation, 1 620 € qui couvrent les frais de 7 semaines de formation défense, prévention, sécurité. Mais dès le premier jour, surprise.
On se présente et le formateur, qui était un ancien gendarme, me dit, avec ton diplôme de gendarmerie, tu as le droit à une carte professionnelle beaucoup plus étendue en plus. Pour l'emploi, ils avaient mon CV, ils savaient mon parcours, donc ils auraient dû savoir que cette formation était caduque.
Voilà, il n'avait pas besoin de formation, rien à faire là, notre gendarme. Il contacte donc Pôle emploi pour récupérer l'argent de sa formation. L'organisme lui répond qu'il aurait dû se renseigner avant ce qu'il a fait, pourtant en regardant sur Internet. Mais surtout, il a fait confiance à sa conseillère, puisque c'est son travail. Résultat des courses, Pôle emploi, aujourd'hui France Travail, refuse de lui recréditer son compte CPF. Et cet argent, aujourd'hui, il en a besoin pour de vrai, puisqu'il veut se payer une formation secours incendie et évoluer professionnellement dans
son
métier.
Est-ce qu'on peut l'aider ?
Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a appelé d'abord la défenseure des droits. Malheureusement, pas de médiation possible, parce que pas de preuves. Et oui, comme si ça ne suffisait pas, les échanges avec la conseillère de Christophe ont eu lieu pendant le Covid, et donc c'était exclusivement par téléphone. Nous avons donc insisté auprès de France Travail. Comme tout service public, l'organisme a une obligation d'information des usagers, c'est ce que nous lui avons gentiment rappelé, et France Travail présente ses excuses. L'organisme s'engage à recontacter Christophe très rapidement, on y veillera. Pour le CPF vidé en revanche, pas de miracle pour le moment, c'est au niveau de la Caisse des dépôts et consignations que ça se joue. On va évidemment pousser de ce côté aussi pour que notre ancien gendarme récupère ce qui lui manque, et puis je suis sûr que France Travail nous écoute ce matin et qu'il va se passer quelque chose dans la journée.
Donc, des nouvelles demain peut-être.
Amélie. Allez.
L'actu éco ce matin, Manu. Après deux années exceptionnelles, les intentions de recrutement des employeurs sont en baisse cette année.
Oui, les entreprises ont manifesté le besoin de recruter 2,78 millions de personnes cette année. C'est ce que nous dit l'enquête annuelle sur les besoins en main-d'œuvre que vient de publier France Travail. C'est presque 9% de moins qu'en 2023, ce qui nous ramène à des niveaux de recrutement qu'on connaissait avant le Covid. Ce ralentissement, il est perceptible dans tous les secteurs, et notamment la construction. Là, on est quand même à presque moins 20% de besoins d'embauche, et dans le commerce aussi. À noter que les grandes entreprises semblent plus frileuses que les PME dans leurs projets de recrutement. Et comme il y a moins de visibilité, ça, c'est vraiment un indicateur important, les intentions de recrutement en CDI diminuent assez fortement. 54% l'an dernier, plus que 38% cette année.
Et quels sont les métiers les plus recherchés ?
Alors, si on regarde en nombre, les intentions d'embauche sont particulièrement fortes dans l'hôtellerie, restauration, beaucoup de besoins aussi dans l'agriculture et la viticulture, dans l'entretien, les soins et l'aide à domicile, donc les métiers qu'on disait les métiers de premier rang pendant la crise sanitaire. Alors après, il y a des métiers où il y a moins besoin de recrutement en quantité, mais où c'est quand même très difficile de trouver l'oiseau rare. Et là, on pense à beaucoup de métiers de l'artisanat, comme les couvreurs ou les carrossiers auto. Et alors, si vous combinez les deux, c'est-à-dire le métier où il y a le plus de besoins en nombre et où c'est le plus difficile de recruter, eh bien, ce sont les aides à domicile.
Mais les aides à domicile, dans ces cas-là, il faudrait peut-être les augmenter un peu quand même, non ?
Oui. Dans 40% des cas, la difficulté de recrutement est liée à la faiblesse du salaire.
À la faiblesse du salaire proposé. Arnaud Demange,
bonjour.
Mon invité ce matin, c'est François Bayrou, le maire de Pau, président du Modem, haut commissaire au plan.
J'ai mis une chanson d'Europe.
Ouais.
C'est les européennes. Pour les jeunes qui nous écoutent, Final Countdown, c'était Europe. Oh là là. Alors, on est dans le Final Countdown pour les européennes. Là, on commence à rentrer dans la fin de campagne. François Bayrou nous livrera son analyse là-dessus. Ça va être chouette. Apolline est revenue de vacances exprès pour écouter François Bayrou.
C'est-à-dire que normalement, j'étais en vacances, mais c'est simple. J'ai dit, écoutez, il y a François Bayrou.
François Bayrou, j'arrive. François Bayrou soutient Valérie Ayé. Il pourrait même faire partie de sa liste, mais alors il précise dans une position non éligible. Et ça, c'est un domaine dans lequel il a une expertise, ne pas être élu. Ça fait 30 ans que c'est sa spécialité, donc c'est bien. Non, Emmanuel Macron, lui, parlera d'Europe lors d'un discours aujourd'hui à la Sorbonne. Alors, on soupçonne que c'est pour soutenir Valérie Ayé, mais il ne faut pas le dire. Alors, par contre, elle ne sera pas là. Elle sera retenue au Parlement européen pour des sessions de vote. Donc Macron, il va expliquer à ses troupes. Je vous jure, elle est vraiment super. C'est dommage qu'elle soit pas là. J'aurais adoré la rencontrer. On m'a dit qu'elle était top. Donc faites-moi confiance et votez pour Nathalie Payet. François Bayrou, il s'est aussi exprimé sur la violence des mineurs. Il a dit, les mots ne suffisent pas. Et c'est vrai, on se souvient tous de sa méthode pour contrer la violence des mineurs. Une grande claque dans la gueule, tu me fais pas les poches, hein. C'est autre chose que des mots qui suffisent pas. Bayrou, il va mettre en place un couvre-feu chez lui à Pau, et c'est lui qui va patrouiller dehors avec une raquette à moustiques, et dès qu'il va croiser un gamin passé 19h, après, bon, couvre-feu à Pau. Moi, j'ai joué dans le coin il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas grand monde dans les rues passé 18h de toute façon. Hein. T'as plutôt envie de demander aux gens de sortir après 18h. Faut sortir, les vieux. Bref, pour savoir ce qui se passe.
Les vieux ou les jeunes?
Pour savoir ce qui se passe à Pau avec Bayrou, on écoute. Apo avec Bayrou. Et voilà. La boucle est bouclée, c'est magnifique. C'est merveilleux, c'est du travail.
On vous retrouve avant cela, évidemment, dans une heure. À tout à l'heure, Arnaud. Il est 7h28 sur RMC. 7h31 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. De l'eau, de l'air, la vie, elle est loin. La pub Perrier des années 90, la marque d'eau gazeuse a dû détruire 2 millions de ses célèbres bouteilles vertes à cause d'une contamination aux matières fécales. Encore des milliers de vols annulés aujourd'hui, malgré la levée du préavis de grève des contrôleurs aériens et l'accord trouvé in extremis hier. Et puis en football, Paris, toujours pas champion de France, malgré sa victoire 4-1 à Lorient. Monaco a assuré sa deuxième place face à Lille.
2 millions de bouteilles Perrier détruites après une contamination bactérienne.
Une mesure de précaution prise par le groupe Nestlé, qui a d'ailleurs été obligé par le préfet du Gard d'arrêter l'exploitation de son puits de Vergèze. C'est là que l'eau Perrier est puisée, une eau qui présentait un risque pour la santé des consommateurs, Margot Boult.
Oui, parce que cela fait 2 semaines maintenant que l'eau souterraine contenue dans ce puits est contaminée de l'extérieur par des germes d'origine fécale. Et ce n'est pas la première fois que ce site, celui de Vergèze, est pollué. L'été dernier, les autorités de santé alertaient sur des bactéries dans 5 des 7 puits de l'usine. À chaque fois, des incidents après des épisodes de fortes pluies. Nestlé justifie cette nouvelle contamination par la tempête Monica, qui a frappé le sud-est de la France il y a 2 semaines. Le groupe précise tout de même que les bouteilles Perrier actuellement en vente sont consommables en toute sécurité, mais c'est le 2e scandale pour Nestlé en quelques mois seulement. En janvier, l'entreprise avait admis avoir eu recours à des traitements interdits sur ses eaux minérales.
Jeudi noir pour le transport aérien français, malgré la levée du préavis de grève des contrôleurs aériens et l'accord trouvé en dernière minute hier. C'était trop tard pour rétablir les milliers de vols annulés. Résultat, plus de la moitié des avions sont supprimés à Roissy-Charles-de-Gaulle. Ça monte à 65% à Marseille et seul 1 vol sur 4 pourra être assuré aujourd'hui à Orly. C'est là que devait atterrir Emma au retour d'une semaine de vacances à Malte, mais elle va devoir jouer les prolongations contre son gré.
On a dû réserver un vol, réserver une nuit d'hôtel. Donc, ça fait un sacré budget en plus. Personne, on doit être à 150€, je pense. Et je devais travailler vendredi, je ne pourrais pas travailler vendredi. Donc, ouais, franchement, c'est bien galère. Ça fait pas mal de pertes. Tu te sens un peu solo aussi. Tu te dis déjà, on ne te prévient pas. On a reçu un mail, mais genre 3 heures après avoir eu l'info par nous-mêmes. Et du coup, tu te dis, bah, c'est un peu relou. Surtout qu'en plus, quand tu essaies d'appeler la compagnie, t'as personne. T'attends 40 minutes, au bout d'un moment, tu finis par raccrocher parce que t'en as pas le bol. C'est casse-pied.
Et si vous projetiez de partir à Venise, en Italie, et que vous avez votre avion, sachez que la ville italienne expérimente à partir d'aujourd'hui le ticket à la journée. 5€ pour tenter d'endiguer le surtourisme. On sera sur place dans le journal de 8h. Il est 7h34 sur RMC. À l'Assemblée nationale, les travaux se poursuivent sur le projet de loi fin de vie. Et hier, une députée a livré un témoignage poignant devant les représentants des cultes réunis pour une table ronde. C'est l'écologiste Sandrine Rousseau qui a mis en avant sa propre histoire et celle de sa mère.
Moi, j'ai aidé ma mère à mourir. Elle s'est suicidée et j'étais présente. Qui serais-je pour lui interdire ce geste? Qui étais-je à ce moment-là pour lui interdire cette souffrance, de souffrir de manière supplémentaire? Qui étais-je pour juger de son état à ce moment-là? Et en fait, c'est ça qui me choque, c'est que, certes, il y a question de la mort, mais ce qui est absent de vos mots, ce sont les souffrances de ces personnes.
Du nouveau dans l'affaire Philippe Kopmann, ce jeune homme tué en pleine rue à Grande-Synthe dans le Nord, inhumé hier. Un troisième adolescent a été mis en examen pour assassinat. Il rejoint en détention provisoire les deux autres suspects, dont son cousin, après avoir lui aussi reconnu le guet-apens tendu à Philippe via le site coco.gg. Ce site internet qui sera au cœur d'un procès aujourd'hui, celui de 11 hommes jugés au tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir eu des relations sexuelle, parfois tarifée, avec une collégienne de 14 ans. Des hommes de tous les âges et de tous les profils, Marion Dubreuil.
Les parents avaient signalé la fugue de leur fille. La collégienne avait été retrouvée chez un agriculteur de 54 ans qui sera aujourd'hui sur les bancs des prévenus. Les gendarmes ont découvert que l'adolescente échangeait avec des majeurs via le site internet de rencontre Coco. Son avocat, maître Grégory Frère.
Il y a des jeunes apprentis, il y a des gens qui sont sans emploi, il y a des responsables avec des postes à responsabilité qui vont solliciter des prestations tarifées parfois et parfois non tarifées avec cette demoiselle. On a fait établir des photos qui sont contemporaines au moment des faits. Il n'y a pas de discussion à avoir sur l'âge de la demoiselle. Elle n'avait pas un physique qui pouvait prêter à confusion.
L'un des prévenus, âgé de 45 ans, poursuivi pour avoir obtenu des vidéos à caractère pornographique de la victime, ne savait pas qu'il échangeait avec une enfant de 14 ans, assure son avocate Sarah Ben Saber.
Ne serait-ce que de par l'inscription sur un site de rencontre qui n'est autorisé qu'aux personnes majeures. Les échanges qu'il a avec cette jeune fille ne le laissent pas imaginer un seul instant qu'elle aurait moins de 18 ans.
Un militaire a déjà été condamné à 2 ans de prison pour recours à la prostitution d'un mineur.
Et ne manquez pas tout à l'heure à 8h10 le parti pris d'une avocate qui a de nombreux dossiers liés à Coco. Coco est un repère de pervers et de pédophiles. Voilà ce qu'elle dit. Elle sera avec nous à 8h10.
7h36, la rénovation énergétique se casse la figure. L'Agence nationale de l'habitat vient de publier ses chiffres du premier trimestre 2024. Et ils sont très mauvais. À peine 80 000 logements rénovés. C'est 43% de moins qu'à la même période l'an dernier. Conséquence du couac de la réforme de MaPrimeRénov. Victor Jeune.
Les Français ont renoncé aux petits travaux de rénovation comme l'isolation des murs car le gouvernement avait fait le choix de les sortir du dispositif MaPrimeRénov cette année pour favoriser les chantiers d'ampleur, plus efficaces mais aussi plus coûteux et plus complexes. Sauf que face aux premiers signes de ralentissement du marché, le gouvernement a fait demi-tour. Ces petits travaux seront de nouveau aidés à compter de la mi-mai. Mais le mal est déjà fait. Plus surprenant, même les rénovations d'ampleur sont en forte baisse alors qu'elles sont en moyenne presque 3 fois plus aidées cette année. C'est à cause des atermoiements du gouvernement, observe une professionnelle du secteur. Les ménages hésitent à se lancer. Plusieurs signes montrent que le marché pourrait redécoller dans les prochaines semaines, mais le retard pris en début d'année sera difficile à rattraper, ajoute-t-elle.
7h37 en football, le PSG devra encore attendre ce week-end pour espérer être sacré champion de France. Les Parisiens ont battu Lorient 4-1 hier soir grâce au doublé d'Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Mais Monaco a aussi gagné 1-0 face à Lille et conforte sa 2e place. En revanche, Marseille fait match nul de partout contre Nice et stagne à la 8e place. C'est le 5e match sans victoire en championnat pour les Marseillais, mais leur entraîneur Jean-Louis Gasset le promet, on ne va rien lâcher.
Le sentiment de, malgré l'infériorité numérique, d'avoir donné le maximum pour le gagner. Une équipe courageuse, bien organisée. Je peux rien leur reprocher. C'est vrai qu'on n'avance pas. On va continuer à y croire. Mais c'est vrai que j'ai pas grand chose à leur reprocher.
Et puis les courses, le quintet c'est à 20h15 sur l'hippodrome de Paris-Longchamp.
Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Leur favori aujourd'hui c'est le numéro 6, Giraffe, l'outsider. C'est le numéro 10, Dipsy. La course du quintet à suivre en direct sur RMC Découverte.
C'était le journal d'Élise Dangean, 7h38 sur RMC.
RMC, 6h39h.
Apolline Matin.
C'est l'heure de demander tout ce que vous voulez à l'État. Le chantage à la grève au JO, visiblement ça marche. Ça a marché en tout cas à la SNCF. Les contrôleurs pourront partir 18 mois avant l'âge légal de la retraite, payer 75% de leur salaire. Et après, les contrôleurs de la SNCF, c'est désormais la RATP et surtout les contrôleurs aériens qui demandent également des accords. C'est ce que dénonce le sénateur LR Philippe Tabarot. Il avait proposé d'encadrer le droit de grève. Il est mon invité dans un instant sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h42. Bienvenue si vous nous rejoignez sur RMC.
L'invité du jour.
avec Philippe Tabarot. Bonjour. Vous êtes sénateur LR des Alpes-Maritimes. Vous êtes membre de la commission de l'aménagement du territoire qui va auditionner le 7 mai prochain le patron de la SNCF. Et vous aurez des questions à lui poser parce que, on le voit tout au long de cette semaine, ce chantage à la grève des JO, bah, visiblement ça marche. La SNCF vient de signer un accord qui, en quelque sorte, annule les effets de la réforme des retraites pour une partie de ses agents, en l'occurrence les contrôleurs, qui vont pouvoir partir 18 mois avant l'âge légal avec 75% du salaire. Vous le dénoncez ?
Oui, ce que je dénonce, c'est que le gouvernement et l'Assemblée nationale n'aient pas soutenu notre proposition de loi au Sénat qui était de limiter les abus du droit de grève et nous n'en serions certainement pas là si on avait pu le faire, à la fois sur la lutte contre les grèves perlées, les préavis dormants, les grèves de 59 minutes, sanctuariser des jours dans l'année sans grève. C'était notre objectif. On s'aperçoit que la situation aujourd'hui fait qu'il y a une utilisation bien sûr des Jeux Olympiques et c'est cette année les Jeux Olympiques, il y aura d'autres événements qui seront quelque part pris en otage. Moi, je pense que, et on l'a dit pendant les débats sur ce sujet, la grève est devenue impréalable et non plus, comme avant, un ultime recours. Et la situation démontre que certains syndicats décident dans notre pays, quel qu'en soit le coût. Et malheureusement, ça peut avoir des conséquences durables, pas tant sur une prime JO que certains obtiendront, mais plus largement, on s'aperçoit que ça peut faire tache d'huile, notamment sur le transport public. Qu'on détourne la loi sur les retraites, les syndicats parlent eux-mêmes de revanche, qu'on accentue la différence dans notre pays entre le privé et le public, et puis que c'est la fin de la notion de pénibilité. Comment vous expliquer qu'il est plus pénible de travailler comme contrôleur que sur un chantier en plein hiver ou en plein été? Donc je pense que cela sur le symbole aussi peut avoir des conséquences, même si Jean-Pierre Farandou connaît son entreprise, il est dans le dialogue social permanent, il est proche de ses salariés, mais là, objectivement, ça envoie un très mauvais signal.
Et puis, Jean-Pierre Farandou, attendez. Oui. Philippe Tabarot, on va préciser les choses. Jean-Pierre Farandou, d'abord, que vous mentionnez à l'instant, c'est donc le patron de la SNCF. C'est lui qui officiellement a signé cet accord avec les contrôleurs en leur donnant donc cette sorte de dérogation à la réforme des retraites. On précise évidemment que la SNCF, c'est l'État, puisque l'État est actionnaire à 100% de la SNCF. Quand vous dites, et je reprécise les choses, vous aviez déposé une proposition de loi pour interdire le droit de grève dans
pour limiter les abus du droit de grève, c'est important, la sémantique est importante.
Pour limiter, évidemment, l'interdiction du droit de grève aurait été anticonstitutionnelle. Là, en l'occurrence, vous vouliez limiter le droit de grève dans les périodes les plus stratégiques, y compris stratégiques comme les JO ou stratégiques comme des moments de très grand départ qui bloquent sciemment le pays. Philippe Tabarot, il y a cet accord pour la SNCF, qui en effet est une forme de dérogation ou d'annulation de la loi retraite. Et puis, il y a les contrôleurs aériens qui sont donc officiellement pas en grève. C'est-à-dire qu'ils avaient menacé de grève et officiellement cette grève est levée. Sauf que c'était trop tard pour réorganiser les vols. Et on se retrouve avec un jeudi noir dans les aéroports français. Il y a 3 vols sur 4 qui sont annulés à Orly. Plus d'un sur deux à Roissy et dans les autres aéroports du territoire français. Philippe Tabarot, on sait que les contrôleurs aériens, dans la foulée des contrôleurs de la SNCF, demandaient, eux, 25% de hausse de salaire. Alors on n'a pas le détail de ce qui a été obtenu, mais enfin ils ont visiblement obtenu quelque chose puisqu'ils ont levé la menace de grève.
Oui, n'ayez aucun doute, il y a le gouvernement qui est à la manœuvre derrière et qui dit aux patrons des grandes entreprises publiques, on y va ou on n'y va pas. Après, moi, j'ai du mal à comprendre que le gouvernement cherche, par exemple, 10 milliards pour boucler son budget cette année et probablement 20 milliards l'année prochaine, qu'on parle d'une possible dégradation de la note de la France dans quelques jours.
Que les agences de notation, notamment Moody's, rend sa note de la France qui pourrait faire exploser le coût de la dette.
Et vous l'avez dit, on est sur des entreprises pour la SNCF totalement publiques et on est dans un système de retraite, par exemple celui des cheminots, qui est largement abondé, subventionné par l'État. Donc c'est là que le contribuable a quelque part aussi son mot à dire et pas uniquement l'usager ou le client de la SNCF. Pourtant, il n'y a jamais eu autant besoin de financement dans le transport public pour investir sur le réseau, pour augmenter l'offre, pour limiter l'augmentation du prix des billets. Vous en parlez souvent dans votre émission. Mmh. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que l'utilisation de l'argent public, des bénéfices que peut faire la SNCF à l'étranger ou sur la logistique, par exemple, doit être réinvesti plutôt pour le réseau et la qualité de l'offre ferroviaire qu'il y en a besoin dans notre pays.
Et effectivement, je précise que cet accord signé pourrait en effet entraîner de très nombreuses dépenses et des dépenses à long terme, évidemment, puisque ce sont des décisions sur des retraites qui durent, sachant que donc la SNCF a abondé de 20 milliards d'euros des contribuables en 2022 pour remettre la SNCF sur rail, si je puis me permettre. Philippe Tabarot, qui seront les prochains? Est-ce que vous vous dites qu'il faut mettre un terme à ça et comment?
Écoutez, comment, je pense qu'on avait au Sénat trouvé la possibilité à travers cette loi sur la limitation des abus du droit de grève.
Vous demandez au gouvernement de revoir
cette question-là. Bien sûr, elle aurait la possibilité de l'inscrire en procédure accélérée, et je dirais à la fois pour cette période des Jeux Olympiques, mais même dans le quotidien, parce que on sait que ces questions vont revenir. C'est pas parce qu'un accord a été signé aujourd'hui sur la cessation anticipée d'activité, faut voir de quoi on reparle. Mais demain, une fois les Jeux Olympiques passés, on reviendra au même système sur un certain nombre de périodes dans l'année, sur un certain nombre de ponts. Et puis ce système de grève de 59 minutes qui perturbe totalement le service, de préavis dormants qui durent pendant des mois et qui ne sont pas activés, ce qui permet de les déclencher à n'importe quel moment et pour n'importe quelle cause, ce n'est plus tenable et plus possible dans notre pays. On en arrive à des situations comme celles qu'on connaît aujourd'hui.
Et je rappelle effectivement que la CGT notamment a déposé un préavis de grève qui court sur plusieurs mois, comprenant les Jeux Olympiques, pour pouvoir être en effet, comme vous le disiez, activé à tout moment. Merci Philippe Tabarot d'avoir répondu à mes questions ce matin. Je rappelle que vous êtes sénateur LR des Alpes-Maritimes, que vous aviez déposé donc cette proposition de loi pour suspendre la possibilité de faire grève dans les moments les plus stratégiques. Je poserai évidemment la question tout à l'heure à mon invité à 8h30, c'est François Bayrou. J'ai envie de lui dire, au fond, est-ce que c'est pas le moment de demander à l'État? Parce qu'on le voit bien, il lâche pratiquement à tous ceux qui menacent de faire grève. Il est 7h49.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, expliquez-nous, Nicolas.
Et je vous explique pourquoi le nombre des centenaires et des super centenaires a explosé en France.
La recette dans un instant, à tout de suite.
Apolline Matin.
Le bonus RMC.
Le bonus RMC. Martin avec les Simpsons qui sont en deuil.
Et comme dirait Homer, punaise, l'un des personnages des Simpsons est mort.
Oh, mais attends voir. Il y a quelque chose qui me tracasse dans cette boîte.
Alors non, c'est pas Homer qui est mort, mais l'un de ses compagnons de beuverie, Larry, qui est décédé dans l'un des derniers épisodes diffusés. Larry, c'est un personnage qui était présent depuis le tout début de la série, mais qui était très discret. Ça fait 34 ans que cet homme fin au crâne dégarni est là, dans le décor. On le voit quasiment dans toutes les scènes qui ont lieu à la taverne de Mo.
Il y avait un peu déprimax.
Un peu déprimax, ouais. Effectivement, le bar préféré d'Homer, il était dans toutes les scènes qui avaient lieu dans cette taverne, mais c'est un personnage qui n'aura parlé que dans deux épisodes en 35 saisons. Et comme souvent dans les Simpsons, sa mort permet de soulever une question de société. Larry décrit Homer et ses compagnons comme ses meilleurs amis, sauf que eux ne connaissent rien de lui. Ils vont donc essayer de se rattraper en allant disperser ses cendres dans un endroit qui était cher à Larry. Voilà ce qui se passe dans le 15e épisode de la 35e saison des Simpsons, quand même.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h53, c'est l'heure de Nicolas Poincaré.
Expliquez-nous,
Nicolas, le nombre des centenaires et des super centenaires explose en France. C'est ce que révèle une étude de l'INED qui a été publiée hier. La France est le pays d'Europe où l'on vit le plus vieux.
Et où on compte le plus de très très vieux. Donc il y avait en France 1000 centenaires il y a 50 ans. Aujourd'hui, ils sont 31 000, donc 30 fois plus. Et il devrait y en avoir encore deux fois plus dans les 15 années qui viennent. Mais surtout, ce sont les plus que centenaires dont le nombre a explosé. Les plus de 105 ans étaient rarissimes il y a quelques années. années, ils sont désormais 2000. Quant aux plus de 110 ans, il n'y en avait aucun jusqu'en 1987, alors qu'en 2022, on a compté 39 décès de personnes qui avaient plus de 110 ans. C'est donc une nouvelle catégorie qui est recensée par l'INED, qu'on appelle les super centenaires.
Quel est leur profil ?
Eh bien, ce sont des femmes. Sur les 39 recensées en 2022, il y avait 38 femmes, et sur les 32 qui sont actuellement en vie, il y a 32 femmes. Et sur les 31 000 centenaires, on compte 15% d'hommes seulement. Ces femmes ont souvent eu des parents qui ont vécu plus de 90 ans. La longévité semble donc héréditaire. Pour vivre très très vieux, il faut ne pas avoir été obèse, ne pas avoir abusé de l'alcool ni du tabac. Laurent Toussaint, qui est un spécialiste des super centenaires, a dressé un profil type des plus de 110 ans. C'est souvent une femme qui a fait des petits métiers assez durs, ou bien en plein air, par exemple agricultrice. Et elle a généralement une alimentation saine basée sur des produits non transformés.
Est-ce que des régions comptent plus de centenaires que d'autres ?
Non, pas dans l'Hexagone. On ne note pas de différence statistique notable entre le Nord et le Sud, l'Est ou l'Ouest. En revanche, les Antilles battent tous les records. On a compté 39 super centenaires pour 1 million d'habitants en Guadeloupe et en Martinique, alors qu'on en compte 5 seulement pour 1 million d'habitants en métropole. 8 fois plus donc de super vieux sous les tropiques. Les chercheurs de l'INED n'ont pas d'explication claire pour ce phénomène, mais ils avancent une piste. La population aux Antilles est essentiellement constituée de descendants d'esclaves qui ont souffert de la traite négrière, des conditions de vie extrêmement dures qui ont conduit à une sélection des plus robustes et au développement donc d'un gène de longévité.
Est-ce que les centenaires ont des secrets pour expliquer leur longévité ?
Alors, bonne question.
Évidemment, vous pensez bien que ça m'intéresse. Je trouve ça triste que les femmes vieillissent seules. Pardon, c'était ma petite parenthèse.
Alors, vous allez voir, justement, on va en parler des femmes seules. Un organisme américain a eu l'idée de poser cette question, donc est-ce que vous avez des secrets, de les poser directement aux centenaires dans le monde entier. Et les résultats sont très surprenants et très contradictoires. Ils sont, par exemple, 29% à dire qu'il ne faut pas suivre les conseils des diététiciens. Et donc, il faut manger comme on le sent. Et ils sont presque autant à dire exactement le contraire.
Ça s'annule.
Pareil pour l'alcool. 12% des centenaires pensent qu'il faut absolument s'abstenir de boire, alors qu'ils sont un peu plus nombreux, 16%, à dire au contraire qu'il faut régulièrement boire un peu d'alcool. Et on se souvient que Jeanne Calment, la doyenne officielle de l'humanité qui est morte à 122 ans, disait qu'elle avait bu du vin toute sa vie. L'étude américaine apporte aussi des réponses surprenantes sur d'autres secrets de longévité. Les centenaires interrogés affirment que pour vivre vieux, il faut être gentil.
Et oui, comme pour
le Père Noël. C'est bien ça, comme quoi, voilà. C'est les gentils qui gagnent à la fin.
Les gentils. Il faut avoir beaucoup de relations amicales, et puis 9% de ces centenaires affirment qu'il faut avoir la foi, croire en Dieu. Enfin, ce même organisme a fait témoigner des super centenaires, qui sont naturellement donc toutes des femmes, et qui disent que leur secret, c'est de ne pas avoir été mariée. Une Italienne de 117 ans raconte qu'elle n'aurait jamais atteint cet âge si très jeune, elle n'avait pas jeté son mari. Et puis, souvenez-vous que la dernière Française doyenne de l'humanité, Lucie Randon, qui est morte en 2023 à 118 ans, elle ne disait pas le contraire, puisqu'elle était religieuse. Se rendre.
Donc elle avait la foi.
Elle avait la foi, et elle n'avait pas de mari.
Et je salue mon arrière-grand-mère qui est morte à 103 ans et qui prenait un whisky par jour.
Ah bah voilà.
Voilà, jusqu'au dernier jour.
Et bah continuez, faites comme elle.
7h57 sur RMC et RMC Story. À tout de suite pour la météo, le journal.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.